Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France, à l'orée de la nouvelle année, pour un nouveau Au fil des pages qui va nous conduire avec le professeur Emmanuel Toniotti sur les chemins agités de l'éthique des dirigeants. Monsieur le professeur, bonjour. Merci d'avoir pris sur votre temps pour venir faire partager vos réflexions issues de vos expériences assez exceptionnelles et qui vous ont fait paraître un ouvrage sous le titre de « L'urgence éthique » que vous avez d'ailleurs auto-publié et que l'on trouve chez les bonnes librairies pour le prix de 19 euros. L'éthique, la morale des dirigeants ont été placés sous les feux de l'actualité de crises répétitives à travers les dérives comportementales, la captation démesurée de richesses au détriment des autres parties prenantes par les dirigeants. Les dirigeants paraissent avoir délaissé les pratiques vertueuses et l'exemplarité qui est exigée par la société civile en raison de leur place en tant qu'élite dans cette société. Tout ceci créant un état de décalage, je vous cite, avec la société civile, pour laquelle la société civile donne de plus en plus de signaux de non-acceptation de cette situation. Il y a donc urgence pour les dirigeants, et singulièrement pour les dirigeants d'entreprise, de redonner du sens dans l'exercice de leur leadership, dans le management, un sens à leur action, en modifiant, en adaptant leur comportement vers celui de leader responsable pour éviter, je vous cite encore, que cet effet de décalage ne se transforme en effet de révolte. Donc, telle est votre thèse. Qu'est-ce que l'éthique, en particulier dans sa version libérale? Comment l'appliquer aux problématiques économiques et humaines de l'entreprise? Et comment surtout la mettre en œuvre dans cette logique d'éthique de la responsabilité dans l'exercice de ce leadership des dirigeants? Nous allons y revenir largement à travers les questions que je vais maintenant vous poser. Mais je voudrais d'emblée donner un éclairage à nos auditeurs sur votre parcours, qui illustre cette maxime juvénale « mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain, puisque vous additionnez en effet l'expérience d'un sportif de haut niveau. J'espère que je ne me trompe pas. Alors, je ne sais pas dans quel domaine précisément.
Dans le tennis.
Dans le tennis, ah oui, d'accord, très bien. Avec celle d'un intellectuel docteur en philosophie et en théologie, complété par une formation en psychanalyse, si j'ai bien compris. Et vous présidez l'International Ethics Consulting Group, qui est spécialisé dans la formation et le leadership des chefs d'entreprise et dans l'éthique, bien entendu, et le coaching des dirigeants. Vous êtes l'auteur de nombreuses contributions et de notes de réflexion, notamment sur le sujet de l'éthique, et vous enseignez les affaires dans de nombreuses business schools en Amérique, en Chine, en Europe et au Maghreb. On peut sans doute faire plus, mais difficilement beaucoup mieux. Voilà, alors revenons à notre sujet, l'urgence éthique, avec une première question. Éthique et morale sont souvent des concepts qui sont confondus par le grand public. Est-ce que vous pouvez nous donner des éclairages sur ce premier point?
Bien, bonjour et merci de m'avoir invité chez vous pour vous parler de l'urgence éthique. Donc oui, qu'est-ce que l'éthique? Alors si nous revenons aux fondamentaux de la philosophie grecque, le mot éthique, éthos, cela signifie bonne mœurs, vie en société, comportement juste. Et puis ce mot a été traduit en latin par mores. Et donc, en fait, à l'origine, il n'y a pas vraiment de distinction entre l'éthique et la morale, bien que plusieurs philosophes dans l'histoire ont fait la distinction, des philosophes comme Hegel ou un philosophe contemporain comme André Comte-Sponville, qui revient d'ailleurs sur la philosophie de l'éthique.
Le capitalisme est-il moral?
Tout à fait. Et donc, dans l'un de ses articles parus, d'ailleurs, André Comte-Sponville signifie bien la rupture avec Spinoza de la morale et de l'éthique. Et donc, l'éthique, c'est quelque chose de qualitatif par rapport à la morale. Donc, je vais prendre un exemple très simple pour l'illustrer, c'est l'exemple du feu rouge. Je peux avoir un comportement moral exemplaire en m'arrêtant au feu rouge, parce que je respecte la loi. Mais cela ne signifie pas que j'ai un comportement éthique exemplaire. Le comportement éthique exemplaire, c'est que je m'arrête au feu rouge parce que j'ai conscience de la responsabilité qui est la mienne à ne pas mettre en danger ma propre vie et celle des autres. Donc l'éthique, ça me concerne personnellement et ça concerne les autres. Et donc, appliqué à l'entreprise, c'est vraiment une problématique de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, actionnaires, clients, collaborateurs, fournisseurs, voire autres institutions.
Alors, dans la pensée libérale, quelle est la nuance particulière? C'est ce que vous venez de décrire à l'instant.
Donc, dans la pensée libérale, si on revient au mythe fondateur du libéralisme avec le père de l'économie libérale qui est Adam Smith, en fait, Adam Smith a rédigé deux ouvrages, La théorie des sentiments moraux et puis La cause des richesses des nations. Et donc, il explique bien les fondamentaux de l'éthique du libéralisme. Et d'abord, le capital est fait pour servir le progrès de l'humanité. Donc ça, c'est le premier des fondamentaux. Mais éthiquement, et on voit que là, Adam Smith est un philosophe, le capital est fait pour servir l'humanité, mais pour rendre les gens plus heureux. Et donc, il y a une philosophie du bonheur. Appliquée à la pensée politique libérale, Adam Smith dit bien, dans ses ouvrages, qu'il doit y avoir des vertus qui commandent le comportement des dirigeants, des vertus comme l'humilité, la modestie, la sympathie. Il en parle donc dans son ouvrage « La théorie des sentiments moraux ». Et donc, reprenant l'idée de la main invisible, et là, vraiment, l'ultralibéralisme a perverti la pensée libérale, la main invisible, donc Adam Smith nous explique qu'il existe une main invisible qui régule naturellement les marchés. Donc, on a bien retenu cette partie de la phrase, mais on a oublié la deuxième partie de la phrase, c'est « si le comportement des décideurs est vertueux ».
Voilà. Alors, pourquoi les décideurs ont-ils perdu ce comportement vertueux que la crise a mis en lumière, puisque vous le dites d'ailleurs quelque part dans votre ouvrage que la crise a été un accélérateur de la prise de conscience de ces dérives. Et alors, comment appliquer l'éthique aux problématiques économiques et humaines rencontrées dans l'entreprise? On a des leaders qui sont obsédés par les aspects économiques, dites-vous, et qui oublient au passage, ou ont oublié progressivement au passage, l'humain. Le sens de l'humain, et d'ailleurs dans votre ouvrage, vous avez trois chapitres sur lesquels se trouve une notion centrale, le sens, retrouver le sens pour le premier chapitre, redonner le sens dans le deuxième chapitre, transmettre le sens. Alors je reviens à ma question initiale. Donc, comment appliquer l'éthique aux problématiques économiques et humaines rencontrées dans l'entreprise?
Oui, alors vous disiez, pourquoi a-t-on perdu un peu le sens des vertus?
Oui.
Bon, je crois que la montée en puissance de l'individualisme dans la société fait que beaucoup de dirigeants, à travers l'obsession économique, voient l'intérêt de l'actionnaire, et seulement de l'actionnaire, mais aussi leur propre intérêt personnel, à gagner des bonus. Donc ça, je crois que c'est l'un des grands parasitages de la prise de décision dans l'entreprise.
Oui, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, puisque à l'origine, cette logique de l'agence, la théorie de l'agence, était faite justement pour rapprocher les intérêts. Alors, qu'est-ce qui a dérapé?
Ce qui a dérapé, c'est qu'on ne pense plus qu'à l'actionnaire. On a oublié les autres parties prenantes de l'entreprise, qui sont les clients, les collaborateurs, les fournisseurs. Donc, quand on parle d'application concrète, c'est assez incroyable quand on regarde les chartes des valeurs des grandes ou des petites entreprises. Aujourd'hui, que l'une des valeurs affichées, c'est de se focaliser sur le client. Donc, ça veut dire qu'on a totalement oublié qu'à l'origine, une entreprise est faite pour servir un client. Et on s'est seulement focalisé sur l'obsession du résultat pour l'actionnaire. Et donc, c'est ça l'ultralibéral. Avec la pensée de Milton Friedman, c'est de dire l'entreprise est faite pour faire du profit et rien d'autre. Alors que dans la pensée libérale, l'entreprise, elle est faite pour servir une communauté d'intérêts.
Elle a une responsabilité
sociale.
Elle
a une responsabilité sociale.
Par rapport à l'ensemble des parties prenantes.
Tout à fait.
Alors, concrètement, donc, on voit exactement le centre de votre réflexion. Concrètement, comment amener un dirigeant, ou enfin, on va dire, une certaine génération de dirigeants qui ont été très marqués par les formations des business schools, notamment par les MBA, qui ont certainement, pour certains auteurs, des effets pervers. Comment les amener, qui pourtant étaient la grande référence, hein, et sur lesquels d'ailleurs l'école française, à un moment donné, a cru devoir se mettre. Comment donc amener ces dirigeants? Alors, vous faites du coaching, vous rencontrez beaucoup de dirigeants d'entreprise. Vous-même, vous êtes entrepreneur depuis une douzaine d'années. Donc, vous avez aussi le côté l'expérience pratique des choses. Comment donc concilier ces choses de façon concrète, quelques exemples, à travers peut-être les expériences que vous avez connues concrètes dans des entreprises, quoi.
Oui. Ouais. Bon, écoutez, depuis 10 ans, j'ai dû travailler à peu près avec 6000 dirigeants dans le monde, là où j'interviens. Et donc d'abord, il faut voir que les modèles peuvent être différents selon les cultures. Mais il y a quand même quelque chose d'universel, ce sont les valeurs. C'est-à-dire qu'on arrive à se retrouver sur des valeurs fondamentales. Alors si je prends l'Occident, le Maghreb, le Moyen-Orient, comme les mythes fondateurs de la culture sont à peu près les mêmes avec des interprétations différentes, on va retrouver des valeurs comme la responsabilité, la loyauté, la confiance, la solidarité. Si on va en Chine, évidemment, les mythes fondateurs de la culture sont différents, donc on va retrouver des valeurs comme l'harmonie, l'énergie, l'équilibre, la face. Mais on voit que quand on fait des workshops d'entraînement à la prise de décision où on mixe des cultures, on s'aperçoit que finalement, humainement, on se retrouve tous sur les mêmes valeurs. Donc le premier point très opérationnel, c'est d'abord d'identifier des valeurs et de partager des valeurs. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le plus facile. Le plus difficile, et c'est là que le bât blesse, c'est la mise en pratique. C'est-à-dire qu'on affiche souvent des valeurs dans l'entreprise, mais on ne se donne pas les moyens d'entraîner les dirigeants, les managers à la mise en pratique de ces valeurs. Et là, je crois qu'en fait, il n'y a qu'une solution très opérationnelle. C'est ce que je fais concrètement sur le terrain, et c'est ce que nous faisons dans ma société, c'est de prendre des cas pratiques réels auxquels les dirigeants sont confrontés, sur des prises de décisions qu'ils doivent mettre en œuvre effectivement et les entraîner à prendre des décisions qui soient cohérentes avec les valeurs qui ont été définies dans leur entreprise.
Alors d'abord, peut-être j'aurais dû commencer par là pour poser la question, est-ce que vous mettez dans la même approche, dans la même réflexion, à la fois les dirigeants d'entreprise et les dirigeants, on va dire, chefs d'État, etc. Est-ce que c'est sensiblement la même problématique ou y a-t-il des nuances très fortes dans les situations ? Parce que quand on dit que l'opinion ne supporte plus les dérives des dirigeants, c'est au sens général du terme. Mais à l'intérieur de ce constat, il y a, on va dire, un paquet chef d'État et il y a un paquet tel ou tel chef d'entreprise qui, à un moment donné, se laisse aller à des choses qui sont condamnables. Est-ce la même chose ou est-ce que vous faites un distinguo ?
Non, sur l'apprentissage, je dirais, la mise en œuvre opérationnelle, c'est la même chose. À part que les entrées des cas sont différentes et probablement dans la politique, il y a un problème de pouvoir supplémentaire lié à l'élection.
D'accord.
Qui fait
l'échéance
que,
électorale.
Voilà, l'échéance électorale qui fait que les dynamiques sont différentes. Mais ensuite, le processus de prise de décision, quand on s'entraîne à prendre des décisions cohérentes avec des valeurs, c'est exactement le même. À part que les entrées de conflits d'intérêts peuvent être totalement différentes.
Ce que vous dites, je ne sais pas si vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce sujet, c'est en quelque sorte, c'est une forme de condamnation des chartes de déontologie qui sont uniquement déclaratives. Alors, est-ce que vous connaissez des chartes de déontologie qui soient au-delà du déclaratif, c'est-à-dire qui soient initiées par un corps social en tant que tel, c'est-à-dire le corps social des dirigeants ? On sait que les représentants syndicaux des employeurs, notamment en France par exemple, à travers le MEDEF, ont sorti ce qui peut ressembler à des chartes, mais qui généralement sont de grandes généralités. Est-ce que la force de cette approche de la déontologie volontaire par un corps social a plus de force que celle, on va dire, purement déclarative, faite d'une façon générale dans les sociétés qui ont tendance à engager les autres et assez peu la société elle-même et les dirigeants encore moins.
Oui. Alors, ce que je peux remarquer sur le terrain, en termes pratiques, c'est que ce soit un corps social ou une entreprise, en fait, tout dépend du leader. C'est que le leader croit ou ne croit pas. Même si le leader ne croit pas dans l'humanité, il vaut mieux pas qu'il affiche une charte des valeurs dans son entreprise ou dans un corps social parce qu'il ne réussira pas à la mettre en œuvre. Donc le leader, qu'est-ce qu'il fait ? Prenons le cas du corps social, le MEDEF, c'est très intéressant. Si on prend un leader du MEDEF, ben, il doit être en mesure, une fois que la charte est écrite, ben, de mettre en place le plan d'action opérationnel qui fait que pour tous les adhérents du MEDEF, on va s'entraîner à prendre des décisions, voire à mettre en place des plans stratégiques dans des entreprises qui soient cohérents avec la charte du MEDEF.
Mais alors le problème, c'est qu'effectivement, sans contrôle, il n'y a pas de règles.
Non.
Car souvent, ce que l'on voit notamment dans ce type de charte, c'est qu'il y a à un moment donné des choses qui sont dites et ensuite plus jamais personne ne vérifie l'application de ces choses.
Oui, tout à fait. Il faut vraiment qu'il y ait un suivi qui soit fait quand on rentre dans une démarche comme celle-là et qu'on contrôle que les personnes se l'approprient. Donc quand vous êtes dans une entreprise, par exemple, la manière dont vous êtes évalué est très importante. Si vous mettez en place des valeurs et des comportements que tous les dirigeants ou les managers doivent respecter et mettre en œuvre, ça veut dire que leur évaluation annuelle doit être alignée sur cette dynamique-là. Donc, vous allez être évalué 50% sur vos objectifs quantitatifs, les objectifs que vous avez à atteindre, mais vous allez aussi être évalué à 50% sur les bons comportements que vous mettez en œuvre. Voire la prime que vous touchez, elle doit être 50-50.
Ça fait. Très bien. Et ça, vous sentez que ce sont des approches qui commencent à être comprises par les dirigeants et, je dirais, par les conseils d'administration. Les actionnaires ont aussi leur mot à dire, j'imagine.
Alors, tout à fait. En tout cas, il y a une lame de fond qui fait que maintenant, depuis 10-15 ans, on évolue vers ce genre de démarche. Mais bon, il y a un autre élément. C'est que les personnes, les citoyens, les ouvriers, les salariés ne sont plus dupes de rien aujourd'hui.
D'accord.
Ils ont accès une information qui fait qu'ils ne sont dupes de rien et que donc on ne peut plus les duper. Il peut y avoir une révolte, vous savez, des salariés, des citoyens, mais une révolte qui soit passive. C'est-à-dire de gens résignés qui finalement se disent « puisqu'on ne s'occupe pas de moi, moi je vais m'occuper de moi-même, tout seul, personnellement ». Et ça, c'est pire que tout, parce que ça veut dire que l'intérêt communautaire ne se donne plus à voir.
Un de vos condisciples, Olivier Vassal, a écrit quelque chose qui dit ceci, le titre « Quand le don de soi ne va pas de soi ». Et donc, c'est un petit peu ce que vous dites, c'est que si les leaders, si les dirigeants ne sont pas capables de redonner du sens au travail, tout simplement, ils peuvent être confrontés, les entreprises peuvent être confrontées à la plus grave des menaces, peut-être pas la révolte au sens insurrectionnel du terme, mais la révolte passive qui, elle, fait que, ben, justement, qui fait perdre de la compétitivité, qui fait perdre de l'énergie aux entreprises.
Alors,
vous distinguez deux types de leaders. Le leader, on va dire de type économique, obsédé par la production économique, et puis le leader responsable qui, lui, d'ailleurs ça devrait être, si j'ai bien compris, que le seul leader digne de ce nom, le leader responsable qui, lui, est capable d'intégrer la dimension humaine.
Oui, alors, tout à fait.
Que dire de plus sur cet aspect ? Les leaders, il y a encore quand même beaucoup de leaders qui sont sur la logique purement économique.
Oui.
Tous ceux qui sortent diplômés de MBA continuent de sortir comme ça ou
complètement,
pas ?
Complètement. Ils continuent de sortir comme ça, mais pour une raison simple, si vous voulez, c'est qu'il y a eu une dictature étrange de l'ultralibéralisme. Cette dictature nous vient de la culture américaine et on a adopté, en Europe, par exemple, les codes de la culture américaine qui ne sont pas du tout adaptés à notre culture. Donc peut-être que la pensée de l'individualisme fonctionne très bien aux États-Unis. D'ailleurs, les Américains, en règle générale, n'ont pas trop de problèmes avec ça, à part que dans notre culture, ça ne fonctionne pas du tout. Et donc là, il faut remettre du sens, c'est-à-dire il faut impérativement, si on veut redonner du sens à l'intérêt commun, travailler sur la double performance. Et effectivement, le leader responsable, lui, travaille sur la responsabilité économique de son entreprise, parce qu'une entreprise, elle doit faire du profit pour se développer, générer de la croissance et générer des emplois. Mais il doit être aussi responsable humainement, c'est-à-dire créer de la confiance, de la motivation, de manière à avoir un groupe qui fonctionne ensemble vers un objectif commun.
Peut-être d'autres exemples. Est-ce qu'il y a-t-il un point particulier que vous voulez développer ?
Il y a un point particulier sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est que les entreprises qui rentrent dans ce genre de démarche, en général, vous n'en entendez pas parler. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ont une certaine humilité qui font qu'elles ont une stratégie de communication qui font qu'on n'entend pas parler d'elles. Et donc c'est peut-être dommage d'un certain côté, puisqu'on verrait les côtés positifs, parce que les médias ne nous donnent à voir que les côtés négatifs.
Tout à fait, absolument.
Mais force est de constater que nous avons des grands groupes en Europe et en France, des grandes multinationales qui rentrent dans ce genre de démarche dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant sont des entreprises de type humaniste.
Voilà, nous arrivons donc au terme de ce voyage à travers l'éthique des dirigeants et de l'urgence de mettre en place cette éthique, de la rénover peut-être, en tout cas de l'adapter à la situation présente de l'entreprise en mettant plus d'humains aux côtés, bien entendu, de la nécessité aussi d'être performant au niveau économique. Et pour donner un peu le ton de votre ouvrage, je voudrais lire quelques lignes de votre conclusion. L'urgence éthique, c'est de donner à voir et de mettre en œuvre une autre vision pour le monde des affaires, parce que, au-delà de l'engagement de notre responsabilité de dirigeant, nous construisons là où nous sommes le futur de nos enfants. C'est ce que vous appelez, dites-vous, à travers la mise en œuvre pragmatique de l'éthique dans l'entreprise, le courage d'être dirigeant. Le courage, l'exemplarité, ça reste les vertus cardinales du leader responsable que vous avez décrit dans votre ouvrage.
Oui.
Voilà, c'était donc les convictions de Emmanuel Tognotti, professeur et chef d'entreprise, qui additionne avec bonheur, je le disais tout à l'heure, cette maxime juvénale, l'esprit sain dans un corps sain, avec sans doute aussi cette autre caractéristique et cette finalité de tout philosophe, vitam impedere veto, engager l'ensemble de sa vie pour la vérité. Je pense que c'est ce que vous faites à travers la parution de cet ouvrage et votre expérience. En tout cas, l'urgence éthique, un ouvrage qui a retenu l'attention et que nous conseillons à nos auditeurs. Voilà, merci Emmanuel.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci, au revoir.